Allô.
Fréquence Terre.
Voilà la passation de main, Grégory, merci pour ce plateau. Et nous allons parler du but à la cantine, vous le disiez. Nous avons sur ce plateau maintenant Olivier Berland qui s'occupe du bio à la cantine pour WWF. Et c'est un plateau préparé par féminienbio.com et nous retrouvons Anne Guéquière.
Bonjour Frédéric, bonjour Olivier Berland.
Bonjour Frédéric.
Bonjour, oui.
Moi je m'appelle Anne.
Bonjour Anne, pardon.
Alors bonjour Olivier, vous êtes responsable du programme sur le oui au bio à la cantine pour le WWF.
C'est exact.
C'est la deuxième année, vous renouvelez ça pour la deuxième année. Pourquoi avoir relancé cette campagne ?
Parce que la France est un grand pays, il y a 36 000 communes, qu'une agence qui travaille pour le compte du ministère de l'Agriculture en charge de la bio, qui s'appelle Agence Bio, nous a sorti des chiffres sur la consommation de produits bio dans les cantines qui sont très faibles encore aujourd'hui. Et donc il nous a paru opportun de continuer cette campagne parce qu'il s'agit d'une campagne de long terme, sachant qu'un élu a un temps de réaction assez long. Voilà.
Alors, en quoi consiste... Alors, c'est vrai que nous, on est des grands fans hein, du oui au bio dans ma cantine, puisque Féminin Bio soutient également cette campagne. Fréquence Terre, je pense, le fera bientôt également, n'est-ce pas, Frédéric ?
Ah ben, moi, je milite hein, pour le bio à la cantine, il n'y a pas de souci. Hein,
Et donc, en quoi consiste concrètement ce programme ? Voilà, il a aussi des enfants, et donc, on est tous concernés. En quoi consiste ce programme national que vous avez lancé ?
Alors, deux choses. Le pourquoi et le comment. Le pourquoi, pour WWF, le bio dans les cantines, c'est important parce que nous, on relie ça à plein d'autres très anciens combats qu'on mène depuis très longtemps. Notamment le travail sur le monde agricole, sur la biodiversité. Aujourd'hui, la biodiversité est en réduction drastique partout, y compris en France, et on ne le sait pas, les campagnes. Si on se balade dans les campagnes actuellement, les petits oiseaux, il y en a moins 25%, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Muséum National d'Histoire Naturelle. La pollution des eaux, depuis 1996, on sait que 90% des rivières, 60% des nappes phréatiques sont polluées avec des traces de pesticides, etc. etc. Et comme l'agriculture occupe 60% du territoire, ça nous paraît opportun de développer l'agriculture biologique, donc les espaces dédiés à ça, sachant que l'agriculture biologique a des effets positifs pour la biodiversité et sur la pollution des eaux, l'aménagement du territoire, retrouver des haies, etc. etc. au-delà des aspects santé sur lesquels on va certainement revenir. Et le comment, nous, on considère qu'on ne peut pas nous mener tout seul, nous, WWF, une campagne comme ça. Donc, on fait appel aux citoyens.
Aux citoyens, et puis vous avez aussi des parrains qui accompagnent la voilà. campagne, hein, c'est ça ?
On a beaucoup de parrains. Alors, je ne les ai pas tous en tête, mais on a la présidente du WWF, Isabelle Autissier, des gens comme Yannatius Bertrand. On a la ministre de l'Environnement, parce qu'elle a lancé le bio dans la cantine de sa ville Longjumeau depuis longtemps. François Le Marchand, Jean-Paul Jaude et sa femme Béatrice qui ont fait Nos enfants nous accuseront et puis Severn récemment. André Sicolella qui travaille pour le réseau Environnement Santé sur justement toutes les analyses toxicologiques sur les pesticides et autres qu'on retrouve dans l'alimentation. Et Claude et Lydia Bourguignon, Yves Candebord qui est un grand chef, etc. etc.
Donc tous ces parrains vous aident à organiser finalement des rendez-vous en province. Comment ça se passe pour l'organisation de cette campagne concrètement ?
Alors, ce qui est en cours en ce moment, c'est une enquête dans un petit dépliant là, qu'on a amené ici, on en reparlera, donc où on incite chacun, tout à chacun, les parents, à enquêter concrètement. Moi, parent, je veux savoir s'il y a de la bio dans la cantine de mon enfant, là où il mange. Donc, je vais aller poser la question au directeur de l'école, au gestionnaire ou au maire en charge, enfin à l'élu en charge de la vie scolaire. Et ils répondent à ce questionnaire-là et ça se met sur... Il y a un petit site internet et ça s'incrémente sur une carte de France en temps réel. Donc ça, c'est un moyen de créer un bruit de fond et de faire remarquer qu'il y a des zones où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de cantines en bio.
Oui.
Il y a quand même des impératifs qui ont été fixés par le Grenelle de l'environnement.
Tout à fait.
20%, c'est ça,
quoi,
Olivier ?
Oui, c'est ça. C'est quoi les chiffres ? Sur quelle durée ?
Alors, le Grenelle a dit plusieurs choses. A dit pour les cantines, 20% en 2012. Avec une...
C'est l'année prochaine.
C'est l'année prochaine, c'est demain.
Oui.
Alors qu'aujourd'hui, on est à 2%. Si on regarde les volumes d'achats consacrés au bio dans le collectif scolaire, on est à 2%. Ça, c'est les chiffres Agence Bio, l'organisme qui travaille pour le ministère.
Pourquoi? Alors, parce que c'est pas une obligation en plus. C'est indicatif, c'est ça, ce chiffre de 20%?
Voilà, c'est là la petite subtilité. C'est
si
que
c'est possible.
L'État se doit d'être exemplaire. Donc pour tout ce qui le concerne lui directement, c'est-à-dire ses ministères, ses agences de recherche, là oui, ils vont normalement tenir cet objectif-là. Mais pour tout ce qui est collectivité, c'est incitatif et non obligatoire. Mais on sent qu'il y a une dynamique en cours.
Donc comment vous arrivez finalement, donc il y a un premier geste, donc il va, là finalement le boulot est grand, ça n'incombe pas qu'à vous, c'est-à-dire que vous nous avez dit juste avant, le WWF ne peut pas mener cette campagne seule, vous faites appel à des parrains, vous avez mis en place donc un recensement, c'est ça?
Exactement.
C'est-à-dire que ce n'est même pas déclaratif, c'est-à-dire quand une collectivité locale ou une cantine met en place des repas bio, elle ne le déclare à personne. Elle ne le dit pas.
Souvent,
vous avez des bonnes surprises de temps en temps quand même, oui.
Tous les jours, oui. Parce que je me suis mis des petites alertes Google, cantine, bio, machin, et puis je regarde ce que Google me donne tous les jours, et j'entends parler, il y a des articles. Mais c'est souvent communiqué à une échelle très locale, dans les journaux locaux. Enfin, il n'y a aucune vision négative sur ça, mais voilà. Et c'est des petites initiatives qui se passent dans un village par là, une école par-ci. On n'en entend pas vraiment parler. Ils communiquent auprès de leurs administrés, mais pas tellement plus largement. Et puis, il y a d'autres acteurs. Ça ne concerne pas que les mairies. Ça concerne aussi les conseils généraux, parce qu'eux sont en charge des collèges, et les conseils régionaux, qui, eux, sont en charge des lycées. Donc, plein d'échelons différents.
Alors moi, par exemple, à Versailles, puisque les locaux de Féminin Bio sont installés dans la ville de Versailles, on essaye évidemment de faire changer les choses à notre échelle. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de résistance et que finalement, au niveau des villes, il y a aussi une sorte de greenwashing, puisqu'ils introduisent un peu de bio en disant finalement, on se donne bonne conscience et là, on doit être à un repas bio par trimestre, ce qui est franchement n'importe quoi. Enfin,
c'est pris en compte dans votre comptabilité? Comment ça marche? Est-ce qu'un repas bio, même une fois par semaine...
Par trimestre, là, c'est...
Non, oui, mais même, une fois par semaine, ce qui est peut-être ridicule, ce qui est déjà peut-être un geste, mais pour moi, c'est pas le repas bio à la cantine tous les jours. Est-ce que ça, c'est pris en compte dans vos stats? Est-ce que vous dites, celle-là, elle fait du bio, ou est-ce qu'il faut faire du bio tous les jours?
Alors, nous, on incite à éviter de travailler sur des pics, c'est-à-dire de proposer des repas de temps en temps.
Oui.
Techniquement, j'expliquerai après pourquoi. On préfère que la collectivité s'engage sur une démarche d'introduction d'un aliment, par exemple le pain, ou les fruits, ou les légumes, et de manière régulière, quitte à ce qu'elle monte en charge progressivement. Dans l'enquête, on demande quel est le pourcentage d'aliments bio qui est introduit dans la cantine. Si on est à entre 0 et 10, 20, 30, etc. etc. Après, quand vous citiez l'exemple d'un repas par semaine, juste pour l'anecdote, un repas par semaine, ça fait 20%. Donc nous, on serait déjà satisfaits si ouais, toutes les écoles étaient à un repas par semaine. Ça implique une régularité.
C'est-à-dire qu'on atteint le quota.
Oui. Alors après, c'est pas un quota limitatif. Il y a beaucoup de communes qui vont largement au-delà. Et pour nous, on se sert de ça parce que c'est une promesse Grenelle. Et que c'est bien que les pouvoirs publics et que les collectivités s'alignent au moins sur ce qu'elles disent et ce qu'elles annoncent. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Grenelle, même si ça a été organisé par l'État, les collectivités étaient parties prenantes et elles ont co-signé cet objectif de 20%.
Pourquoi vous ne vous adressez pas directement aux responsables de l'établissement? Pourquoi vous lancez l'enquête? Apparemment, vous faites appel aux parents.
Est-ce que ce sont les mairies qui décident?
C'est les mairies qui gèrent les budgets, c'est les départements qui gèrent les budgets pour les collèges, c'est les régions qui gèrent les budgets pour les lycées.
Oui, non, mais c'est-à-dire là...
Pour faire du lobbying, vous voulez dire.
Cette enquête, elle est remplie par qui?
Par des parents.
C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent voir le cuisinier de la cantine, qui sont en général des plats préparés à l'extérieur,
etc. Qui d'autre que les parents
qu'on donne un pourcentage. Non, mais je suis d'accord, mais pourquoi ne vous adressez-vous pas très directement à des responsables d'établissement pour savoir s'il y a un repas bio à la cantine, combien de fois il est servi, si c'est une part, si c'est juste les tomates qui sont bio, combien de fois ils servent des tomates, etc.
Très simplement parce qu'on considère que c'est que cette campagne-là, elle concerne tout le monde.
Oui.
Et que c'est les parents qui sont quelque part à la fois les électeurs, mais aussi les garants de la santé de leurs enfants et qui doivent avoir qui doivent reprendre un droit de regard sur ce qui se passe, notamment dans les cantines de leurs enfants.
Ils ont déjà du mal à pénétrer le système éducatif. Il faut qu'ils aillent pénétrer les cantines maintenant.
Une occasion de plus d'y aller.
En fait, si je peux me permettre, Frédéric, la difficulté du dossier, c'est qu'effectivement, l'alimentation dans les écoles n'est pas gérée par un seul acteur. Ça peut être une cantine centralisée, ça peut être un prestataire externe, ça peut être effectivement de très grosses collectivités comme des petites. Et c'est cette multiplicité en fait, des cas de figure et des acteurs qui rend le dossier finalement assez complexe. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais moi, j'ai le sentiment, Olivier, que c'est ça qui est finalement difficile aujourd'hui.
Oui.
C'est qu'il faut qu'il y ait une pression, et c'est ce que vous faites, et je trouve qu'il est très bien dans la campagne, c'est qu'il y ait une pression, je dirais en anglais, bottom-up et aussi top-down, c'est-à-dire que vous essayez de faire pression à la fois sur le gouvernement, les acteurs, c'est-à-dire des prestataires comme Avenance ou d'autres, et effectivement aussi les parents, puisqu'il y a un moyen de pression fort, évidemment, de la part des citoyens pour pousser le dossier.
Qui est Avenance, excusez-moi?
Alors, Avenance, enfin, on peut en citer, citons-en d'autres, parce que j'ai l'air de leur faire de la promotion, ce que je ne cherche pas du tout à faire. Mais
enfin, c'est quand même un prestataire qui fait quoi?
Qui fournit, en fait, de l'alimentation dans les cantines.
Voilà, on peut citer Eurest, Sodexo, enfin,
c'est des fournisseurs de repas. Hein.
Voilà, qui fabriquent et livrent des repas dans les cantines pour le compte des mairies ou autres. Alors, une autre réponse par rapport à votre question, on s'est aperçu, ça c'est un retour d'expérience qui est très vieux dans le monde des ONG environnementales, c'est que quand on associe le grand public à une campagne, souvent on obtient plus de résultats et plus de réponses.
D'accord.
Que si nous, on s'adresse directement, discrètement, sans faire de publicité, à une mairie. Alors après, il y a autre chose, c'est que dans cette campagne, par exemple, on a fait récemment une lettre ouverte qu'on a envoyée aux médias locaux à monsieur le député maire de Marseille, monsieur Gaudin, parce qu'on sait qu'en ce moment, ils sont en train de renouveler le marché de leur cantine, en appui à un collectif de parents d'élèves qui travaillent déjà sur ces thématiques-là.
D'accord, donc c'est complexe quand même.
Voilà,
il y a des intermédiaires, des interlocuteurs différents.
C'est-à-dire que l'objectif de base, c'est bruit de fond, faisons l'enquête, ça en fait parler, ça interpelle les élus. Les parents se mouillent là-dedans pour plein de raisons et voilà, il faut aussi qu'ils soient partie prenante. Et ponctuellement, sur des cas particuliers, on essaye d'agir de manière un peu plus directe.
Alors justement, est-ce qu'on peut reprendre des villes un peu emblématiques? On pense évidemment à Lons-le-Saunier ou à Saint-Étienne, qui sont des villes pionnières et qui ont atteint non seulement le quota, mais qui pour certaines l'ont même dépassé.
Largement,
est-ce que
oui.
Vous pouvez un peu nous expliquer quel a été leur cheminement et finalement comment ils en sont arrivés là?
Il y a plein de cheminements différents. Par exemple, Lons-le-Saunier, le maire M. Pélissard, s'est aperçu qu'il avait un fort taux de nitrate dans les sources qui alimentent la ville, il y a 15-20 ans de ça. Et il a réfléchi, il s'est dit, alors je vais peut-être déformer un peu sa réflexion, mais c'est pas bien grave. Il s'est dit, il y a deux solutions. Soit j'investis massivement dans une station de traitement de l'eau, pas d'épuration, traitement de l'eau en amont, pour avoir une eau de qualité au robinet. Soit je fais baisser les nitrates, donc je traite à la source, je suis en préventif. Et donc il a pris cette option-là et en conséquence, il a travaillé avec les agriculteurs locaux en leur disant « Écoutez, moi je vais vous aider à vous convertir à la bio et je vais en plus vous garantir les marchés parce que derrière, je vais faire travailler ma cuisine centrale et je vais vous prendre vos produits en direct dans ma cantine, dans ma cuisine centrale pour… » Alors du coup, il dessert les cantines scolaires, il dessert les maisons de retraite, il dessert l'hôpital local et ils ont même ouvert un restaurant d'entreprise ouvert à tout le monde.
Donc on rappelle qu'une cuisine centrale, c'est donc une cuisine qui est gérée par la mairie, c'est ça, et qui nourrit toute une population locale?
C'est un outil de production qui peut être très bien géré par une mairie comme par un organisme privé comme ceux qu'on a cités tout à l'heure. Mais c'est un endroit où l'on fabrique les repas.
C'est ça, pour une collectivité, pour une ville?
Pour une collectivité, pour une entreprise, pour ce qu'on veut. Dès qu'on a beaucoup de repas à faire pour beaucoup de personnes.
Donc là, encore une fois, on voit que c'est une volonté politique qui finalement a fait basculer. Il y a eu un autre exemple quand vous avez lancé la campagne de cette année 2011, au moment de la conférence de presse qui m'a beaucoup frappée, qui était l'exemple de l'Italie que je ne connaissais pas. Et effectivement, vous disiez que l'Italie, en fait, a un taux de nourriture bio dans les cantines qui est très élevé. Il y a une volonté politique très forte et qui finalement est retombé aussi par ricochet dans les foyers. Et je trouvais que cet exemple était très intéressant.
Pour citer qu'un exemple, Rome, toutes les cantines scolaires gérées par Rome sont à 100% en bio.
C'est incroyable.
C'est absolument incroyable.
Donc on a des exemples.
La pizza bio,
très bien, non,
bonne, mais, à Rome.
Impeccable. Moi, je suis pour le 100% bio. Mais apparemment, il y a quand même des choses qui bloquent. Il y a des freins.
Par exemple.
C'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui vous freine, vous, dans le fait d'apporter ou de faire en sorte que le bio arrive dans les cantines? C'est quoi? C'est le coût du bio? Vous parlez tout à l'heure des surfaces utiles cultivées en bio. Il faudrait qu'on importe des produits bio encore plus, c'est ça? Anne vient de me dire à l'instant que finalement, il y avait des villes qui avaient trouvé des solutions sur des circuits courts. Je sais qu'il y a aussi des AMAP qui fournissent des cantines dans certaines petites villes. Alors, qu'est-ce qui peut pérenniser cette action? Qu'est-ce qui est un frein? On va peut-être commencer par le frein. Qu'est-ce qui est un frein à l'arrivée du bio dans les cantines? Et donnez-nous des exemples concrets de choses qui marchent très bien et qu'on pourrait multiplier.
Alors, parmi les freins souvent cités par les collectivités, c'est le surcoût. Le fait que ce soit compliqué de s'approvisionner, parce qu'effectivement, on a encore relativement peu. On est à 2,46% au dernier pointage des surfaces agricoles utiles en bio, ce qui est faible, parce que on parlait d'objectif Grenelle au tout début. Le Grenelle disait aussi en 2012 on doit être à 6% de terres agricoles en bio et en 2020 20%. Donc on en est loin. Donc il y a un manque de production et effectivement en France on importe au global 40% de la bio qui est consommée en France, que ce soit le particulier ou les collectivités, et sur les fruits et légumes on est même déficitaire à 60%. On voit que ça bouge très fortement dans le monde paysan biologique, que des filières sont en train de se mettre en place. Et notamment, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une synergie, en fait. C'est-à-dire que dès qu'une collectivité se met dans la danse et commence à travailler sur un cahier des charges intégrant de la bio, elle le fait. Nous, ce qu'on demande, parce que le sous-titre de la campagne, c'est « local de saison en circuit court ».
Voilà, oui.
Ce qui est important.
Ce qui me semble être important, oui. Pour faire des économies, déjà.
D'une part pour faire des économies, bien que la bio pas chère, il en vient des pays de l'Est parce que socialement, etc., ils peuvent produire pour moins cher que nous.
Oui, puis je vous arrête une seconde. Un exemple très concret dans les cantines. Par exemple, ici, les Moulineaux, j'ai une amie qui est à la commission cantine et qui nous dit on est super bien, on arrive au 20% de bio. Le problème, c'est qu'on importe du bio qui n'arrive pas mûr, avec des fruits qui sont durs,
voilà,
de mauvaise qualité, alors que du coup, on préférait des choses mûres, locales, évidemment, sans pesticides, bien
de
évidemment.
Saison, de saison.
De voilà. Saison.
Tout à fait. Donc, il y a cette histoire de coût qui est un frein. Mais en fait, on s'aperçoit que si on creuse un peu derrière, il y a aussi d'autres freins qui sont les habitudes prises. C'est-à-dire que quand vous avez une équipe en cuisine, et j'ai rien contre eux, mais voilà, on est dans cet état de fait, qui ont l'habitude d'ouvrir des boîtes ou de réchauffer des choses qui sont toutes faites, déjà transformées. Eh ben, réapprendre l'acte de cuisiner, c'est pas forcément chose simple. Ça nécessite parfois aussi de réinvestir parce que on a déséquipé les cuisines centrales. Donc maintenant, au lieu d'avoir...
Alors ça, c'est pas inhérent au bio, c'est les produits frais. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, voilà. Il faut apprendre à remettre dans les cantines les produits frais.
Voilà.
Oui, mais alors ça va de pair parce qu'effectivement, quand vous voyez qu'avec des prestataires externes, un steak haché, il peut être cuit 4 jours à l'avance. Il est servi 4 jours après, réchauffé avec une sauce, parce qu'il faut un liant pour réchauffer, donc c'est forcément des plats en sauce.
Et ajouter du goût.
Et ajouter du goût, servi à des petits bouts de choux de 3-4 ans en maternelle. Enfin, excusez-moi, mais c'est dégueulasse. Il faut bien le dire.
C'est souvent, ça peut être souvent pas très bon, effectivement. Et donc voilà, nous, c'est le frais, le local, le circuit court. Et donc le fait que des collectivités se mettent dans cette démarche-là, ça va générer des commandes derrière, qui vont permettre aux agriculteurs de planifier leur production et donc d'augmenter progressivement.
On va développer en même temps l'agriculture locale, oui.
Nous, l'idée, c'est de vraiment accompagner ce mouvement qu'on sent, cette mini-révolution du monde agricole, où on voit que tous les jours, il y a de plus en plus d'agriculteurs conventionnels, pour ne pas dire industriels, qui passent au bio. Et donc les surfaces, l'agence bio a des indicateurs où l'année dernière, il y avait entre 15 et 30 agriculteurs par jour qui faisaient la demande de conversion.
D'accord. Donc mettre le bio dans la cantine peut développer l'agriculture bio.
En France, tout à fait.
D'accord. On va passer aux exemples, donc à contrario, des exemples qui marchent. On va prendre un exemple concret. Je suis responsable d'un établissement scolaire. J'ai pour idée de mettre du bio dans ma cantine, et pas qu'une seule fois, mais tous les jours. Quelle est la démarche que je dois entreprendre pour y parvenir?
Alors, vous êtes un établissement scolaire privé ou public, Frédéric?
Peu importe, un établissement scolaire.
Alors, Anne a bien raison en fait, de poser cette question-là. Selon qu'on soit un établissement scolaire public, ce n'est pas l'établissement scolaire qui va faire cette démarche-là, c'est la mairie, c'est la personne, l'élu ou les services en charge de la vie scolaire qui prennent ça en charge. C'est-à-dire qu'un directeur d'école pourra faire la demande, mais techniquement, et celui qui gère les cordons de la bourse, c'est l'élu.
D'accord. Alors, il faut qu'il... Oui, mais voilà. Bon, je me positionne toujours voilà. En chef d'établissement. Je suis impliqué dans la scolarité des enfants que j'ai à charge. Mmh. Je voudrais qu'ils mangent du bio. Alors, donc, je dois aller voir le maire.
Voilà.
Alors, attendez, parce qu'avant d'aller voir le maire, vous n'allez peut-être pas aller voir aussi directement. Il y a des commissions cantines, typiquement, dans la plupart des collectivités.
Encore une étape intermédiaire, donc, on découvre.
Donc on passe...
C'est quoi cette commission cantine? Il y a qui?
C'est très variable. Il y a des commissions cantines où il va y avoir seulement les agents en charge de la production, l'élu responsable et le directeur d'école ou le gestionnaire.
Donc l'élu est là?
Bah, il se fait représenter d'une manière ou d'une autre.
Donc là, on a déjà la possibilité de commencer à pouvoir évoquer le sujet?
Éventuellement, oui. Et après, ça dépend. Il y a des commissions cantines qui sont ouvertes beaucoup plus largement, où les parents d'élèves sont inclus.
Nous, par exemple, à Versailles, pour vous donner un exemple très concret, on est une cinquantaine à peu près aux commissions cantines de la ville de Versailles, qui est une ville d'à peu près de 80 000 habitants. Donc ça veut dire qu'il y a entre 40 et 50 personnes autour de la table. Et donc dans les élus, vous avez deux types de personnes. Vous avez effectivement le responsable alimentaire à la mairie, mais vous pouvez aussi avoir le responsable de l'appel d'offres, hein, qui a choisi le prestataire, qui ne sont pas les mêmes personnes.
Donc ça se passe en dehors de l'établissement scolaire?
Oui.
Oui, complètement.
D'accord. Donc là, on évoque quel genre de soucis? On dit, voilà, il y a un budget qui est déterminé pour mes plats à la cantine, c'est ça?
Il y a un budget.
Il va falloir qu'on fasse avec.
Il faut respecter des normes, il faut contenter les enfants et les parents. Enfin voilà, on met le niveau sur tous ces objectifs plus ou moins haut.
Alors quand il y a un cahier des charges aussi parfois, le problème c'est que quand le cahier des charges il a été fait en consultation citoyenne, démocratique dans une ville, il a été fait avec ses habitants, puis parfois les cahiers des charges ils ont été faits par une ou deux personnes comme ça de la mairie, et donc il y a un prestataire qui a été choisi pour 3, 4, 7 ans, et donc ensuite vous évoluez avec ce cahier des charges qui est prédéfini, qui dit il y a tant de bio, il y a tant de local, et les repas au niveau diététique doivent ressembler à ça. Donc s'ils ont dit qu'il y avait 5 jours de viande par semaine... et qu'il n'y avait pas de repas végétarien, c'est fixé pour les X années à venir. Donc après, c'est extrêmement difficile. Donc la commission cantine, elle dit juste « je voudrais du comté au lieu d'avoir du gruyère au dessert », voilà, de choses comme ça, ce qui n'est pas très intéressant sur le débat de fond, par exemple.
Bon, alors je suis toujours mon chef d'établissement très militant. Je veux donc aller imposer le bio dans mon établissement. Est-ce que là, j'ai déjà un moyen de pression? Est-ce que je peux me faire aider?
Oui, oui.
Est-ce que vous conseillez, vous, le WWF, les chefs d'établissement ou dans des commissions cantines, des élus?
Alors, on conseille, on a souvent plus de demandes de la part d'élus qui se disent « Ah ben nous, on est en train de réfléchir, on aimerait bien, mais on ne sait pas trop comment faire. » Donc, à ce propos-là, nous, on a mis en ligne pas mal de ressources parce que mettre de la bio dans les cantines, ça nécessite de réfléchir un petit peu à comment on va faire, quels sont les fournisseurs vers lesquels on va se tourner, comment
voilà,
on va travailler
d'un
point de vue juridique son cahier des charges, parce qu'il y a toujours le droit de la concurrence européenne. Au-delà d'un certain montant de marché, il faut qu'on mette ça en concurrence. Donc est-ce qu'on fait des petits lots? Enfin, il y a tout un tas de détails très techniques, les services financiers, les services
juridiques.
Vous avez
juste dit le truc, des petits lots? C'est ça?
Oui, par exemple.
Alors, c'est-à-dire que ça peut permettre de ne pas faire d'appel d'offres et de s'adresser directement à plusieurs fournisseurs?
Ou de faire,
c'est une technique,
plein de petits appels d'offres, pour un petit appel d'offres pour les fruits, un petit appel d'offres pour les légumes, et sur lesquels des petits producteurs vont pouvoir répondre.
Ça, c'est une façon de multiplier ses chances d'obtenir du bio?
Oui, très concrètement, oui.
Ce que fait, je crois, la mairie Jacques Azan, la mairie du 12e, je crois, le fait remarquablement. Vous pouvez nous parler un petit peu de cet exemple que je trouve merveilleux?
Ah bah, lui, il travaille par lot très précis sur même pas des gammes d'aliments, mais parfois sur des produits. Donc il va passer un appel d'offres pour ses lentilles,
ses
ou
carottes,
pour ses pâtes, ou pour ses... Et donc ça lui permet de faire bosser des petits producteurs qui vont pouvoir répondre. Parce que si vous mettez tous les ingrédients, tous les aliments dans un seul et unique appel d'offres, les petits, celui qui fait des carottes mais qui ne fait pas des pâtes, eh ben, il ne peut pas y répondre.
Déjà, il est éliminé, oui.
Voilà.
Mais il a une cuisine centrale.
Mais alors lui, il a une cuisine centrale, mais c'est un gros, je dirais, gestionnaire privé, mais qui suit un cahier des charges qui est imposé par une commune, enfin une collectivité qui est très stricte. Va être obligé, s'il veut bosser sur du local et du bio et du saison, de lui-même derrière l'appel d'offres qu'il a contractualisé avec la collectivité, lui-même faire des appels d'offres très petits pour pouvoir maximiser ses chances d'avoir ces produits-là sur les marchés, sur le marché local.
Ça, alors, je voudrais revenir aussi sur les... c'est important parce que je vois que l'heure tourne sur les outils. Je sais que sur le site internet, il y a effectivement de l'information. Est-ce qu'il y a également un outil de pétition, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a comme outil à disposition des citoyens pour faire avancer le dossier?
Alors, comme tu l'as fait remarquer, il y a une grosse partie ressources qui est notamment dédiée aux élus ou aux responsables, où ils vont trouver tout un tas de littérature sur comment faire concrètement pour mettre de la bio dans sa cantine. Et pour, comme outil d'action à destination du grand public, des citoyens, des gens qui ont envie de s'impliquer, on a deux choses. On a l'enquête qui est actuellement en cours et on va mettre en ligne dans les jours qui viennent un courrier type à envoyer à ses élus locaux, donc aussi bien à son maire, qu'à son président de conseil général, qu'à son président de conseil
ça,
régional.
Ça, c'est très, très bien. Donc, il faut vraiment inciter les auditeurs à faire partir les lettres auprès du maire. Hein.
Ah, on veut des dizaines de milliers de signataires.
Oui, donc ça, c'est génial. Il y a aussi les réunions qui sont organisées en province, hein, soutenues par les parrains.
Exactement. La semaine prochaine, je suis invité à deux réunions. Je vais en co-organiser, moi, toute une série ensuite.
Dans quelle ville?
Alors, on va aller du côté de Montpellier, on va aller à Toulouse, on va aller... En fait, on a focalisé sur les grosses villes, on va aller à Caen, on va aller du côté de Chartres, on va aller à Metz. Je les ai plus toutes en tête, Clermont-Ferrand, enfin, une tournée.
D'accord. Donc là, je renvoie sur votre site. Vous pouvez nous redonner l'adresse www.wf...
www.wiobiodansmacantine.fr. Et aussi, pour ceux qui sont sur Facebook, et il y en a, Dieu sait, un nombre important... Il y a un groupe qui s'appelle Oui au bio dans ma cantine sur Facebook que je vous invite fortement à rejoindre où il y a beaucoup d'actualités.
D'accord, très bien. Alors on va retrouver ces sites internet. Frédéric?
On va les retrouver, vous dites, sur votre.
On retrouve, alors évidemment sur Féminin Bio, oui. Parce qu'on retrouve la campagne. Sinon, c'est www.wiobiodansmacantine.fr où on retrouve toutes les informations sur cette campagne qui va durer toute l'année 2011, Olivier.
Qui va se finir, on va dire, avec l'année scolaire pour cette année et qui a de très fortes chances d'être à nouveau présente là pour l'année scolaire suivante.
Voilà, et on espère qu'il y aura un jour un livre sur le Oui au bio dans ma cantine. On en reparlera peut-être l'année prochaine. Merci, Olivier.
Merci, Olivier Berland du WWF. Hein, toutes les infos, bien sûr, si vous n'avez rien tenu sur féminin-bio.com, sur fréquence-terre.com, sur www.wwf.com aussi. On se retrouve dans un petit instant, une petite pause en musique.